Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, chers fidèles, nous pourrions peut-être nous étonner de voir, d'entendre l'évangile de la transfiguration que nous propose la Sainte Église en ce temps de carême. On pourrait peut-être s'attendre à ce que la transfiguration nous soit présentée plutôt, par exemple, dans le temps pascal, où notre Seigneur est glorifié. Pourquoi est-ce que pendant ce carême, l'Église a préféré, plutôt que de présenter, par exemple, les prédications de notre Seigneur sur la pénitence ou sur la sainteté, pourquoi est-ce que l'Église a voulu mettre dans la liturgie l'évangile de la transfiguration? Eh bien, c'est parce que cet évangile nous aide à mieux comprendre le mystère de la rédemption. Vous savez que le carême tend tout entier vers ce mystère de la croix que nous allons célébrer particulièrement le vendredi saint. Mais pour bien le comprendre, il faut insister sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette divinité que notre Seigneur a voulu manifester plus particulièrement à ses trois apôtres de prédilection sur le mont Tabor. Et en voyant cette divinité notre Seigneur, ça nous permet de mieux comprendre la générosité, la charité qui brûlait dans son cœur au moment où il s'est sacrifié sur la croix. Et par conséquent, en deuxième partie, nous verrons que nous devons imiter cette générosité de notre Seigneur Jésus-Christ pendant tout ce temps de carême, puisque le temps de carême, c'est un temps de conversion, un temps de pénitence, un temps pour pratiquer la vertu d'une manière plus intensive. Et cet évangile de la transfiguration nous aide, bien sûr, également. Mais d'abord, voyons la générosité de notre Seigneur dans le mystère de la croix. Aujourd'hui, notre Seigneur est tout resplendissant, tout glorieux. D'ailleurs, c'est ce qui a frappé le plus, sans doute, les trois apôtres. Bien longtemps après la transfiguration, Saint Jean, au soir de sa vie, écrivait au début de son évangile ces paroles que vous connaissez bien, puisque le prêtre les lit à la fin de chacune des messes basses. « Et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia patri. » Nous avons vu sa gloire, gloire du Fils unique, issu du Père, plein de grâce et de vérité. Et c'est très certainement en pensant à cette manifestation de la gloire de notre Seigneur sur le mont Tabor, c'est à cela sans doute que Saint Jean pensait en écrivant cet évangile, ce passage. Et puis Saint Pierre aussi, dans sa deuxième épître, a insisté sur la transfiguration de notre Seigneur, qu'il a vu de ses propres yeux. Il a vu la gloire de notre Seigneur comme attestation de la vérité de cet évangile qu'il prêche. Et c'est ce même Jésus-Christ, aujourd'hui si glorieux, qui va aller volontairement au-devant de la mort, et puis de la mort la plus affreuse, la mort de la croix. Vous savez que dans l'Empire romain, cette crucifixion était réservée aux esclaves. Jamais dans l'Empire romain, on n'aurait osé crucifier un citoyen romain. C'était beaucoup plus trop indigne. Même si ce citoyen était criminel, s'il devait être mis à mort, on le décapitait. Jamais on n'aurait crucifié. C'était la mort réservée aux esclaves. Notre Seigneur a voulu aller devant la mort qui était humainement la plus ignominieuse. Il a voulu être couvert de crachats. Il a voulu être moqué par les Juifs, par ses propres créatures. Il est Dieu. Cela nous fait ressentir toute sa bonté, toute la générosité de son cœur. Il est allé au-devant de la mort. Et déjà, lorsqu'un homme se sacrifie pour une grande cause, nous l'admirons, toutes les littératures de toutes les civilisations, publient, font la louange des soldats qui offrent leur vie pour le salut de leur nation, pour le salut de leur patrie. Et puis la liturgie chrétienne est pleine de louanges également pour les saints martyrs qui ont offert leur sang pour la gloire de Dieu. Mais tout cela, tous ces grands sacrifices qui sont certainement admirables, n'ont aucune comparaison possible avec le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous montre le mystère de la transfiguration, cette scène de la transfiguration. C'est Dieu lui-même qui se sacrifie, qui meurt pour ses créatures. Et c'est Dieu qui est offensé, qui va porter la peine du péché, des propres offenses faites contre lui. Dieu, notre Seigneur, qui notre Seigneur qui devrait châtier les pécheurs plutôt que de châtier les pécheurs, eh bien, il choisit de mourir pour eux sur la croix. Et c'est donc un mystère de l'amour de Dieu, un mystère de la rédemption. On parle bien du mystère de la rédemption. Mais une autre considération qui nous aide à toucher un petit peu du doigt cette générosité, cette grandeur d'âme de notre Seigneur dans le mystère, eh bien, de la croix, c'est que son sacrifice était entièrement gratuit. Gratuit d'abord parce que, évidemment, l'homme n'avait aucun droit d'être acheté de cette manière. Il n'avait même aucun droit d'être acheté tout court. Il était pécheur, il ne méritait que la colère, que les châtiments de Dieu. Mais c'était également parfaitement gratuit parce que, en soi, notre Seigneur n'avait nul besoin de mourir sur la croix pour nous racheter. En soi, une seule de ses bonnes actions, une seule goutte de son sang suffisait surabondamment pour réparer tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. C'est ce qu'on chante dans une très belle hymne composée par saint Thomas. « Cuius una sila salvum facere totum unum quid abomnicelere » Une seule goutte de son sang pouvait sauver la terre entière, tout le monde, et de tous ses crimes. Alors pourquoi est-ce que notre Seigneur a voulu aller au-devant de la mort alors que ce n'était pas nécessaire, même pour réparer le péché en stricte justice? Eh bien, c'est aussi un mystère, le mystère de l'amour de Dieu, de cette générosité de Dieu, de notre Seigneur. Dans le mystère de la Transfiguration, eh bien, le visage de notre Seigneur a resplendi comme le soleil. Resplendit, c'est que le sol, il est tout lumineux. Eh bien, de même, un petit peu, on peut prendre cette comparaison, le soleil qui éblouit, qui resplendit de lumière tout autour de lui, de lumière et de chaleur, même là où il n'y a rien pour recevoir sa lumière, sa chaleur. C'est dans la nature du soleil de se répandre partout, de répandre sa lumière. Et bien de même, pour Dieu, c'est comme dans sa nature de répandre tout autour de lui le bien et de le répandre d'une manière tout à fait surabondante, comme sans mesure, plutôt à la mesure divine, c'est-à-dire à la mesure de l'infini. Cette générosité de Dieu se répand dans le mystère de la croix, d'une manière tout à fait incompréhensible, mystérieuse, magnifique. Et si l'Église peut nous montrer cette manifestation dans la transfiguration et par conséquent cette bonté de notre Seigneur dans le mystère de la croix, c'est également pour nous proposer notre Seigneur en modèle, toujours quand l'Église nous présente, nous montre un passage de la vie de notre Seigneur, c'est pour que nous l'imitions, puisque notre Seigneur est notre modèle par excellence. Mais par conséquent, et particulièrement en ce temps du carême, dans la deuxième partie, nous devons, eh bien, chercher à devenir toujours plus généreux, toujours plus ardent à pratiquer le bien. Et c'est important de ne pas limiter la vie chrétienne, la vie surnaturelle, au simple aspect d'éviter le péché. C'est vrai, il faut éviter le péché, c'est évident, il faut commencer par cela. Et le carême est là également pour nous corriger de nos défauts, au moins d'un vice en particulier. Mais il ne faut pas rester à cet aspect. Il faut aller plus loin. La vie surnaturelle, c'est avant tout, c'est principalement d'aimer Dieu. Et aimer Dieu, eh bien, on le fait par nos bonnes œuvres. Notre Seigneur, Dieu veut que nous... Ce que Dieu veut, c'est notre sainteté, la sainteté qui rejaillit en bonnes œuvres. Et la Sainte Écriture insiste partout sur cet aspect-là, sur cette nécessité, non seulement d'éviter le mal, de ne pas porter de mauvais fruits, mais également cette nécessité de porter du bon fruit. C'est notre Seigneur qui le dit, juste un petit peu avant sa passion. « Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. » Tout sarment, c'est-à-dire tout fidèle, tout chrétien, tout sarment qui en moi ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il en porte davantage. Et un peu plus loin, c'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits. Autrement dit, que vous fassiez beaucoup de bonnes œuvres, beaucoup de bonnes actions. Alors vous remarquez que dans cette petite parabole, notre Seigneur ne dit pas « tout sarment qui porte du mauvais fruit sera retranché ». C'est vrai qu'évidemment, tout sarment qui porte du mauvais fruit sera retranché. Mais ce que notre Seigneur nous dit, il va plus loin, il dit « tout sarment qui ne porte pas du bon fruit sera retranché ». Et Saint Jean-Baptiste, au tout début de la vie de notre Seigneur, disait aux Juifs, en les invitant à faire pénitence, « Tout arbre qui ne porte pas du fruit sera coupé et jeté au feu. » Ici encore, Saint Jean-Baptiste ne dit pas « tout arbre qui porte du mauvais fruit », mais « tout arbre qui ne porte pas du bon fruit ». Et vous remarquez que dans la parabole des talents, celui qui a été condamné, celui qui a reçu un seul talent, n'a pas été condamné parce qu'il aurait volé ce talent, ou qu'il l'aurait perdu, gaspillé, ou qu'il en aurait fait un mauvais usage. Il a été condamné tout simplement parce qu'il a enterré son talent et qu'il a rendu à son maître un seul talent sans le faire fructifier. Il aurait dû en rendre deux, il aurait dû en rendre deux fois plus. Et Saint Paul, justement, a une très belle citation qu'on a dans son épître aux Philippiens, qui nous montre cette spiritualité de Saint Paul et qui doit être aussi la nôtre. Ce n'est pas que j'ai déjà saisi le prix, c'est-à-dire le prix du ciel, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de le saisir, puisque j'ai été saisi moi-même par le Christ. Pour moi, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je ne fais qu'une chose, oubliant ce qui est derrière moi et me portant de tout moi-même vers ce qui est en avant, je cours droit au but pour remporter le prix auquel Dieu m'a appelé d'en haut par Jésus-Christ. Bien, ça doit être aussi notre attitude. Nous devons courir vers le ciel, c'est-à-dire faire tout le bien que nous pouvons faire. On pourrait se demander pourquoi est-ce que l'Évangile, pourquoi est-ce que Saint Paul insiste tant sur cette nécessité de porter du bon fruit pour être sauvé. Bien sûr, c'est le péché à proprement parler, c'est le mauvais fruit qui fait perdre la grâce, le péché mortel, et qui entraîne la damnation. Cependant, et c'est sur cela que notre Seigneur insiste, ce qui nous sauve, ce ne sont pas nos efforts personnels, ce qui nous sauve, c'est la grâce qui est en nous. Et il est dans la logique, pourrions-nous dire, de la grâce, de se répandre en bonnes œuvres. Une grâce sanctifiante qui ne se répandrait pas en bonnes œuvres, ce serait une sorte de contradiction interne. Il est normal pour tous ceux qui ont la grâce, pour ceux qui sont enfants de Dieu, d'agir en enfants de Dieu, de faire tout le bien qu'ils peuvent. Et celui qui ne cherche pas généreusement à faire tout le bien qu'il peut, il s'attiédit petit à petit, il devient de plus en plus faible dans la vie surnaturelle, il finit par s'attacher désordonnément à tous les biens qui passent, et à la fin, c'est ça, la vie même de son âme, c'est son salut qu'il met en danger par sa tiédeur intérieure. Et à ce sujet, il faut prendre bien garde de ne pas mal comprendre ce qu'on veut dire en parlant du devoir d'État. Quand on parle du devoir d'État, il ne faut pas le comprendre comme s'il s'agissait d'une sorte de minimum, de ne faire que le minimum, ce qui est strictement exigé en justice, et puis pour ne rien avoir aucun souci du salut des âmes, de celles qu'on ne connaît pas, mais du salut de toutes les âmes, ou rester indifférent en sachant que notre Seigneur, notre Dame sont méprisées, sont oubliées, sont méconnues, sont même blasphémées dans le monde entier. On ne peut pas rester indifférent à ces choses-là et rester dans une sorte de béate indifférence parce que nous, on fait ce qu'il faut et pour le reste, tant pis. Non. Ou il ne faut pas éviter, il ne faut pas avoir peur, craindre de chercher de toutes nos forces à faire tout le bien qu'on peut. Donc le devoir d'État, c'est de faire le maximum de bien qu'on peut faire dans son état propre. Même dans un cadre de vie très ordinaire, nous pouvons avoir un zèle extraordinaire et un amour extraordinaire pour Dieu. La vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus s'est déroulée entièrement dans son couvent d'une manière très humainement très ordinaire. Et pourtant, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus faisait tout ce qu'elle pouvait pour faire le bien autour d'elle, dans ses prières et même dans tous ses actes de charité envers les sœurs. Elle avait vraiment un zèle indomptable pour la gloire de Dieu, pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela la véritable sainteté, c'est cela le véritable devoir d'État. Ce n'est pas simplement de se limiter à ce qui est strictement nécessaire. En conclusion, chers fidèles, Saint Pierre résumait toute la vie de notre Seigneur en deux mots, dans un très beau sermon dans les Actes des Apôtres. Transit bene faciendo. Notre Seigneur est passé en faisant le bien, en répandant le bien autour de lui. Eh bien, ça doit être aussi un peu notre devise pendant ce carême. Nous devons profiter de ce carême pour faire tout le bien que nous pouvons. Notre Seigneur a passé, transit. Eh bien, nous aussi, notre vie, c'est un pèlerinage vers le ciel qui ne durera qu'un temps très court par rapport à l'éternité. Alors, il faut en profiter, profiter de ce temps favorable pour faire le bien, et profiter de ce carême, des grâces que Dieu nous donne aujourd'hui, qu'on n'aura peut-être pas demain. Quand est-ce que nous mourrons? On ne le sait pas. Il faut profiter de chacun des instants pour faire tout le bien que nous pouvons, pour nous répandre dans toutes sortes de bonnes œuvres, pour la gloire de Dieu, pour le salut de notre âme et pour le salut de toutes les âmes. C'est la grâce que nous demanderons à Notre-Dame pendant ce carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.